VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous, bienvenue. Alarmante, la situation des réfugiés nigériens au Cameroun, une moyenne de 45 enfants voient le jour chaque mois dans le camp de réfugiés de Minawao. Et selon les agences caritatives, la plupart d'entre eux n'ont pas d'acte de naissance. Le gouvernement du Cameroun et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont commencé à combler cette lacune en donnant eux-mêmes des bulletins de naissance aux bébés dans l'espoir que ces documents seront acceptés par le gouvernement nigérien quand les réfugiés retourneront chez eux. Le correspondant de la VOA, Moki Edwin Kinzeka, a visité le camp de Minanao dans le nord du Cameroun. Son reportage vous est présenté par Eddie Isango.
Isaac Luka est le leader des réfugiés des Minawa. Il salue ici le travail des agences humanitaires.
Nous sommes très reconnaissants parce que nos enfants vont jouir de leurs droits civiques. Nous remercions le gouvernement du Cameroun et le patron des partenaires du HCR, les différentes agences onusiennes, sans oublier les organisations non gouvernementales, pour leur attention.
Théophile Ngweya Beina est le plus haut responsable camerounais de la région. Il explique que la reconnaissance des droits des enfants nigériens à un bulletin de naissance a commencé à se concrétiser après des négociations entre le gouvernement camerounais et les HR. Légalement, les droits de tous les enfants à un bulletin de naissance et à une existence légale a été respecté. Socialement, ces enfants ne sont pas responsables de ce qui s'est passé dans leur pays. Ils sont vulnérables et le gouvernement du Cameroun ne peut pas rester les bras croisés et laisser cette situation persister. Gerasim Bayorem du HCR précise que ces bulletins de naissance ne donnent pas la nationalité camerounaise aux enfants des réfugiés nigérians. Mais en établissant un dossier officiel sur leur lieu de naissance et leurs parents, les enfants pourront un jour réclamer légalement leur propre nationalité nigériane. Gerasim Bayorem explique que les enfants ont le droit, partout où ils voient le jour, d'obtenir un bulletin de naissance. Et si, dans un pays différent de celui de leurs parents, ils ont, une fois adultes, jusqu'à 18 ans pour décider d'être citoyen de ce pays, si sa constitution les lui permet, en vertu de jus soli, le fait qu'il est né là-bas.
Reportage complet dans Le Monde aujourd'hui, c'est dans environ 30 minutes. Au Burundi, alors que les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se poursuivent, l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent à un report des élections. C'est dans ce contexte que la Belgique, premier partenaire du processus électoral, prend ses distances avec Bujumbura. Morgan Guiriek.
Nous avons encouragé le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement. L'idée d'un glissement du calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a estimé l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région, s'exprimant aussi au nom de la Suisse et des États-Unis. Les Pays-Bas et la Suisse ont annoncé la suspension de leur aide électorale au Burundi, emboîtant le pas à la Belgique. En réaction à la répression policière à l'encontre des protestations, l'ex-puissance coloniale a suspendu le versement de 2 millions d'euros destinés à soutenir les élections. Elle interrompt également sa coopération policière avec Bujumbura. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burundi a jugé que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant, explique le vice-premier ministre belge Alexander De Croo. Le coût du processus électoral est estimé par Bujumbura à quelque 60 millions de dollars. Le Burundi dit pouvoir en assurer 21 millions. Les violences liées aux manifestations ont déjà fait près de 20 morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Ouganda, se réunissent mercredi à Dar es Salaam pour discuter du dossier.
L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, a pour la première fois porter un noir à sa tête lors d'un congrès tenu à Port Elizabeth. Mmsi Maiman, âgé de 34 ans et originaire de Soweto, a été choisi pour remplacer Hélène Zillé, qui à 64 ans avait annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Pour un éclairage sur le nouveau leader de l'Alliance démocratique, Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg David Zoumenou. Il est chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud.
Mmsi Maiman est un jeune politicien. qui a su gravir très rapidement les marches pour se retrouver dans la position de leadership au sein de l'Alliance démocratique. Il était jusque-là le porte-parole de l'Alliance démocratique à l'Assemblée, pressenti pour jouer un plus grand rôle. Le parti lui a accordé sa confiance. Donc c'est un jeune tribun, c'est également une gueule dans l'arène politique sud-africaine et surtout, c'est une jeunesse qui continue d'incarner les valeurs d'unité, les valeurs auxquelles, en tout cas, le parti s'est engagé depuis la fin de l'apartheid et qui veut tout faire pour briser le monopole de l'ANC sur l'arène politique sud-africaine.
David Zoumenou de l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg, Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara a déclaré ce lundi à Ouagadougou qu'il est candidat à la présidentielle en Guinée, son pays. L'ancien chef de la junte militaire guinéenne a créé son parti dénommé Force Patriotique pour la démocratie et le développement.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite ne sera pas au sommet américano-arabe convoqué cette semaine à Washington par le président Barack Obama. C'est ce qu'a annoncé hier son ministre des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, annulant également une réunion à la Maison-Blanche qui avait été annoncée il y a seulement quelques jours. Lionel Gaïma.
C'est mercredi que doit s'ouvrir le sommet en présence des délégations de 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe en visite à la Maison-Blanche avant de se poursuivre jeudi avec de pourparlers à Camp David avec le président Obama. Selon M. Jubeir, le roi Salman envoie à sa place le prince héritier Mohamed bin Nayef. Il explique que le sommet coïncide avec le cessez-le-feu de 5 jours et les efforts humanitaires au Yémen voisin, où l'Arabie Saoudite a mené une campagne de frappe aérienne contre les rebelles chiites Houthis. Un officiel de l'administration Obama a dit que ce changement n'était pas, et je cite, en réponse à une quelconque question substantielle. Avec l'absence du roi Salman, seul l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et celui du Koweït Sabah Ahmad Al-Sabah dirigeront les délégations de leur pays. Le sultan d'Oman Qaboos bin Saïd et le président Khalifa bin Zayed Al-Nahyan des Émirats Arabes Unis disent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de Washington pour des raisons de santé. En revanche, aucune explication sur le fait que la délégation de Bahreïn sera dirigée par le prince héritier plutôt que par le roi Hamad bin Issa Al-Khalifa. La semaine dernière, un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schulz, avait dit qu'il y aurait, à ce sommet, des discussions sur le renforcement de la coopération sécuritaire avec les nations du Golfe et la recherche d'approches communes concernant les conflits en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen. Les pourparlers porteront vraisemblablement aussi sur les négociations au sujet du nucléaire iranien et les préoccupations des États du Golfe selon lesquelles Téhéran obtiendrait la levée des sanctions tout en préservant sa capacité à fabriquer une bombe atomique.
Et sur le terrain au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a continué ses frappes aériennes contre les cibles rebelles houthis ce lundi. Un jour avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu humanitaire, les avions ont bombardé la région de Saada, près de la frontière saoudienne, ainsi que Taïs dans le sud-ouest du Yémen et à l'est dans la province de Marib, productrice de pétrole. Les autorités saoudiennes et américaines avaient requis un cessez-le-feu la semaine dernière pour permettre à la nourriture qui fait cruellement défaut au carburant et aux médicaments d'atteindre les civils. Au Yémen, les houthis ont déclaré dimanche qu'ils avaient accepté la proposition qui doit prendre effet, vous le savez déjà, demain, mardi. John Kerry va rencontrer Vladimir Poutine demain mardi en Russie. La rencontre entre le secrétaire d'État américain et le président russe va se dérouler à Sochi au menu des discussions des sujets bilatéraux et régionaux dont l'Iran, la Syrie et l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué le département d'État ce lundi. Il s'agira de la première visite du chef de la diplomatie américaine depuis 2 ans alors que les relations entre les deux pays sont au plus mal depuis la fin de la guerre froide. Et puis, pour terminer, le président français François Hollande est à Cuba depuis hier en visite officielle. Il est le premier chef d'État occidental à visiter l'île communiste depuis que le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont annoncé en décembre dernier leur intention de mettre fin à plus de 5 décennies de rupture des relations bilatérales pour cause de guerre froide. Au programme du président François Hollande aujourd'hui, puis des consultations avec Raúl Castro qui rentre d'Italie où il a été reçu au Vatican hier par le pape François. Merci de nous avoir suivis. Prochaines informations sur VOA Afrique, c'est seulement dans 20 minutes avec le magazine Le Monde Aujourd'hui présenté par Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info.